Chers frères de la communauté, chers hôtes, non seulement ici dans la chapelle, mais aussi dans le couloir, vous êtes les bienvenus au même degré que les autres. Je dois vous l'avouer, en lisant et méditant les lectures de cette messe, je me sentais pas mal dépassé. Non seulement le ton sévère de certains passages que nous avons entendus, plus particulièrement de la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, cette lettre que Martin Luther a désignée comme lettre de paille, passage qui m'effraie, mais en plus, le nombre de thèmes qui font apparition dans nos trois lectures et qui donc se proposent en soi à l'attention du prédicateur, tout cela m'a bien troublé. De fait, alors que la première lecture tirée du livre des Nombres, le quatrième livre de la Bible, évoque le don de l'esprit de prophétie répandu sur les 72 anciens du peuple élus séjournant dans le désert. La deuxième lecture est une critique vigoureuse à l'adresse des riches qui vivent dans le luxe au prix de graves injustices sociales telles que l'exploitation des ouvriers. Et enfin, la troisième lecture tirée de l'évangile de Marc évoque d'un côté Jésus qui fait preuve d'une telle tolérance étonnante, de l'autre côté, le même Jésus utilise peu après un langage tout autre, bien tranchant et même terrifiant. Devant ce tas de questions qui se sont présentées à mon esprit, je me suis demandé comment méditer ces lectures à la lumière de notre seule intelligence naturelle, ou bien en nous rendant accessibles à une autre lumière, à savoir cette lumière que Dieu désire nous donner à travers les textes même que nous avons entendus. De fait, ne contiennent-elles pas, malgré tout, sa propre parole? Dès lors, ne vaudrait-il pas la peine d'entrer dans une écoute qui sort, pour ainsi dire, d'elle-même, pour devenir une sorte de canal par où le Seigneur peut nous inspirer ses sentiments à lui? Une écoute qui apprend à dépasser nos premières résistances qui peuvent toujours monter en notre cœur et qui va, une écoute qui va jusqu'à accueillir une parole qui au premier abord heurte ou même blesse. Mais il me semble que cette question-là est reliée à une autre plus générale. De fait, comment écoutons-nous et regardons-nous non seulement les textes de la Bible, parce qu'ils sont quand même la parole de Dieu, mais cette autre parole qui est bien plus cachée, à savoir le tissu de toute notre existence. Comment écoutons-nous et regardons-nous ce qui se passe autour de nous, entre nous, mais peut-être aussi en nous-mêmes, dans notre propre cœur? Avec quel regard abordons-nous ce réel très complexe auquel nous sommes confrontés jour après jour? Or, l'évangile que nous venons d'entendre nous présente deux regards très différents, voire opposés. D'une part, le regard dont les disciples de Jésus, ses plus intimes disciples, envisagent une situation concrète, mais inattendue et bien embarrassante pour eux. D'autre part, le regard de Jésus lui-même, dont il considère cette même situation. Nous pourrions dire autrement, d'un côté le regard purement humain, de l'autre côté le regard du Fils de Dieu. Mais quelle est cette situation? Voici ce qui vient de se passer. Jusqu'à présent, les disciples de Jésus vivent dans la conscience, un petit peu fière, d'être des familiers, des intimes, des privilégiés, des élus de Jésus le Messie. Ils sont ses collaborateurs dans l'apostolat et même déjà investis du charisme de guérir les malades et surtout d'expulser les démons. Ne sont-ils dès lors pas les détenteurs, d'une certaine façon les propriétaires, aussi bien de la personne bien-aimée de leur maître et la personne admirée de Jésus de Nazareth, en même temps que les propriétaires du don de chasser les démons? Mais les voilà tout à coup en face de quelqu'un qui ne fait nullement partie de leur cercle, quelqu'un du dehors, et qui pourtant expulse les démons au nom même de Jésus, leur maître. Comment tolérer cela? N'est-ce pas leur privilège, leur tâche, leur mission de faire de pareilles actions extraordinaires? Ne faut-il donc pas interdire à l'autre, celui du dehors, d'agir de telle sorte? Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Mais quelle n'est pas la surprise de Jean, le fils du tonnerre, qui vient de se prononcer ainsi, quand il doit entendre la réplique de son maître? Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Quelle leçon pour les disciples! Eux qui, une fois de plus, et saint Marc de le souligner au chapitre d'où provient notre passage, de le souligner même à plusieurs fois, eux, les disciples les plus intimes de Jésus, les futurs apôtres, se montrent encore si peu habités par les intentions de leur maître. Or, celui-ci, le Christ Jésus, n'était-il pas venu, et par l'action de son esprit ne continue-t-il pas de venir, non pour eux seulement, ses élus, mais pour tous les hommes? N'est-il pas envoyé par le Père, venu d'auprès du Père, pour apporter le salut à tous? Non en l'imposant, car le salut n'abuse jamais de notre liberté d'y adhérer et de l'accueillir. Non en l'imposant, mais en révélant à tous l'amour, la proximité, la fidélité, la miséricorde toujours neuve, toujours inventive du Père. Cette miséricorde qui est plus forte que les forces de l'amour, et jamais vidé ou asséché par les événements du monde. Jésus n'est-il pas depuis toujours mandaté par le Père de sauver le monde et de donner sa vie pour que le monde soit sauvé? Frères et sœurs, voilà le message que nous, les baptisés, nous avons toujours à communiquer à ceux qui croisent notre route. Non pas tant par des paroles, mais par notre vie ordinaire de tous les jours, par une vie assumée toujours de nouveau, par attachement au Seigneur, en le préférant même à nous-mêmes, et qui ainsi témoigne de notre confiance en l'amour sauveur du Père. C'est cela, suivre les traces de Jésus. La forme que prendra ce témoignage, nous n'avons pas à nous casser la tête là-dessus. C'est le Père qui s'en occupera. Mais quelle que soit cette forme, probablement toujours discrète et qui ne saute pas aux yeux, cette forme consistera toujours à dire oui, jour après jour, au Seigneur qui nous invite, avec sa discrétion habituelle, à nous associer au don de sa propre vie. Cette vie que nous sommes en train de célébrer et que nous recevons une nouvelle fois dans cette Eucharistie.